ça vaut le détour.
Bonjour et bienvenue à Ça vaut le détour, édition du mardi 1er mars 2016. Bonjour, ici Maxime Despomerleau, très heureuse de vous retrouver pour ce deuxième midi de la semaine à Ça vaut le détour. Nous sommes en direct tous les lundis, mardis et mercredis midi. Je vous invite à nous suivre sur Twitter avec le mot-clic CVLD et @canal barre de soulignement M. Vous pouvez nous soumettre en tout temps des sujets d'actualité ou réagir aux propos de nos invités. Aujourd'hui à l'émission, on s'entretient avec Mme Joanne Lauzon, directrice de la Fédération québécoise de l'autisme. Dans sa chronique, elle nous propose un retour sur le premier forum québécois de l'autisme qui se tenait les 11 et 12 février derniers. On reçoit aussi Mme Ginette Manta, fondatrice et directrice de Préma Québec. L'organisme fondé en 2003 offre du soutien aux parents de bébés prématurés. Mais d'abord, on discute de faits importants dans l'actualité ces jours-ci. Des patients atteints d'une forme sévère de dégénérescence maculaire risquent de perdre une perte de vision en raison d'une mesure bureaucratique du ministère de la Santé. En effet, depuis quelques semaines, certains d'entre eux ont reçu des avis de non-renouvellement de leur traitement lorsque son administration ne correspondrait pas à la posologie du fabricant. En conférence de presse le 23 février dernier, l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire a dénoncé la mesure imposée par la Régie d'assurance maladie du Québec et sommé le ministre de la Santé, M. Gaétan Barrette, d'intervenir. Pour bien faire la lumière sur l'enjeu auquel les aînés font face, on parle avec M. André Lavoie, directeur général de l'AQDM, l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire. Bonjour, M. Lavoie.
Oui, bonjour.
D'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va prendre quelques minutes pour parler de l'organisme, en fait, pour présenter l'AQDM.
Oui, bien, l'association existe quand même depuis plus de 20 ans. Nous, notre mission, c'est principalement d'informer donc à la fois les membres, mais sensibiliser aussi la population sur la dégénérescence maculaire, qui est la première cause d'une perte de vision après 50 ans.
Comment est-ce que ça se manifeste? Quelle est exactement la dégénérescence maculaire?
La dégénérescence maculaire, donc, c'est une perte de la vision centrale. C'est-à-dire, par exemple, si j'avais quelqu'un devant moi, je ne pourrais pas voir son visage alors que je pourrais percevoir ce qui est autour. Donc, je garde une vision périphérique. Naturellement, c'est un handicap important. C'est-à-dire, donc, quelqu'un qui a la dégénérescence maculaire, à la longue, va faire en sorte qu'il va perdre son permis de conduire, ne pourra plus lire facilement, ou même pas du tout. Donc, c'est quand même un handicap très important au niveau de la vision.
Et quelle est la forme de dégénérescence qui est concernée par le problème avec la RAMQ?
Oui. Bien, il y a deux formes de dégénérescence maculaire, la forme sèche, qui est une lente détérioration, et la forme aussi qui est plus sévère, c'est la forme humide. C'est donc un écoulement sanguin. Donc, ce sont des petits vaisseaux sanguins qui ont éclaté à l'arrière de l'œil, donc au niveau de la rétine. Et ça fait en sorte que, donc, très rapidement, beaucoup plus rapidement que la forme sèche, ça peut être en 5 minutes, hein, autrement dit, il y a une perte importante de la vision à ce moment-là, puisque l'épanchement sanguin fait en sorte qu'au centre de l'œil, il y a une pastille noire qui apparaît. Et donc, la vision centrale est perdue.
Et donc, c'est cette forme de dégénérescence en particulier qui est traitée et où est-ce que là, il semble avoir un conflit entre l'ordonnance du fabricant et les besoins manifestés par les personnes qui bénéficient de ce traitement?
Bien, il existe depuis plusieurs années donc des traitements, c'est-à-dire, heureusement, hein, depuis 2007, on a découvert un peu par hasard qu'un traitement qui était donc pour un cancer avec quelques gouttes dans un œil pouvait justement dissoudre cette masse sanguine, donc, et les vaisseaux sanguins qui ont poussé de façon anarchique au niveau de la rétine. Ça s'appelle les dissoudre et ça permet donc à ce moment-là de retrouver une partie de la vision qu'on a perdue très rapidement. Bien sûr, donc, la problématique avec ça, ça ne guérit pas. Ce sont donc des injections qui se donnaient jusqu'encore à récemment à tous les mois. Cependant, depuis un an, est arrivé sur donc un nouvel outil, autrement dit, donc une nouvelle arme pharmacologique, donc de Bayer, qui s'appelle Eylea, et qui donc avait l'avantage de pouvoir être donné aux deux mois. Parce qu'il faut bien voir que ce traitement, c'est une injection dans l'œil, hein, une injection intraoculaire. C'est pas quelque chose là, que tous les mois là, qu'on aime beaucoup recevoir. Alors, donc, quand même, l'avoir aux deux mois au lieu d'un mois, c'est extrêmement, donc, c'est un soulagement important pour tous ceux qui sont atteints, pour les milliers de personnes qui sont atteintes de la dégénérescence maculaire. Donc, ce qui arrive, pour certains, il n'y a personne qui réagit de la même façon à un médicament. Oui, le médicament est homologué pour être donné à tous les deux mois. Mais environ 10 à 15% des personnes qui reçoivent donc ce médicament de Bayer, et eux, ils vont réagir, donc, c'est une forme encore plus agressive. Hein. Donc, eux, ces personnes-là vont devoir le recevoir donc aux 6 ou 7 semaines et non pas aux 8 semaines comme il est prescrit. Et c'est quand même 6 ou 7 semaines. C'est quand même meilleur qu'à toutes les 4 semaines.
Absolument.
Alors, donc, c'est quand même un soulagement pour ceux qui sont à 6 semaines au lieu de, donc, à tous les mois. La problématique, la Régie d'assurance maladie du Québec. Et là, c'est donc, autrement dit, ce médicament-là est arrivé à peu près il y a un an. Et après 4 traitements, donc à peu près donc 8 mois, donc, le médecin doit faire un rapport à la Régie d'assurance maladie du Québec. Ce qui fait qu'un paquet de personnes, dont plusieurs centaines, qui n'ont pas réussi à atteindre ce cap-là de 8 semaines, hein, ce plateau de 8 semaines, mais plutôt 7 ou 6. Alors, donc, ont reçu une lettre en disant que le traitement n'était pas renouvelé.
Oui, on parle d'environ 15 % des utilisateurs, c'est 400 à 500 patients qui actuellement...
Il y a plus d'utilisateurs que ça. Et environ, donc, 10 à 15 des utilisateurs de Eylea qui, donc, ne réagissent pas aux 8 semaines, mais vont avoir un traitement plutôt aux 6 ou 7 semaines.
On peut se questionner tout de même sur l'origine de cette décision. La décision de changer la posologie et celle du médecin. Pourquoi envoyer cette missive-là, finalement, aux patients? Pourquoi les aviser, eux, que leur traitement ne sera pas renouvelé, alors que c'est plutôt avec les médecins qu'on devrait regarder les raisons qui font que certains patients n'atteignent pas ce plateau de 8 semaines et donc il faut réévaluer?
D'abord, on va dire que ce sont les médecins traitants qui envoient un rapport. Étant donné que c'est un médicament d'exception, alors donc il faut donc, après un rapport, après 4 donc injection. Donc, le médecin envoie un rapport en disant donc c'est positif et donc ça devrait être continué. Les médecins ont envoyé des rapports en disant que c'était positif, mais aux 6 ou aux 7 semaines. La régie, donc, a décidé, comme le médicament est homologué pour tous les deux mois, ont décidé d'envoyer une lettre à la fois au médecin et à la fois au patient pour dire bon, alors c'est pas renouvelé. Naturellement, il y a des médecins qui, eux, donc, ont monté un peu d'un rideau, qui ont appelé à la régie, qui ont envoyé des lettres et tout. Il y a certains cas qui ont été révisés, mais très peu. Alors, il y a deux choses qui se passent. Alors, les patients qui reçoivent ça, les patients reçoivent des lettres en disant « vous n'êtes pas renouvelé », vous pouvez donc contester en allant devant le tribunal administratif. Écoutez, imaginez quelqu'un là, qui a 80 ans qui reçoit une lettre comme ça, là. Ça dit quoi, ça? C'est totalement inhumain. D'abord, première des choses, si on va contester ça devant le tribunal administratif, ça va prendre au moins un an avant d'être entendu. La particularité de la dégénérescence humide, c'est que si elle n'est pas soignée à temps, c'est comme n'importe quelle autre blessure, il va y avoir une cicatrisation naturelle au bout de quelques semaines ou quelques mois. Si bien que lorsqu'il y a une cicatrisation naturelle, les injections, que ce soit Eylea ou n'importe quelle autre injection auparavant, donc ne fonctionneront plus. Autrement dit, ça veut dire que quelqu'un qui s'en va contester la décision, qui n'a pas de traitement, qui s'en va attendre un an, et même si elle gagne en cours, il va être trop tard pour avoir un traitement, c'est terminé, c'est fini, la perte est définitive. C'est aussi ridicule que ça. C'est pour ça que finalement, on a décidé donc de prendre une position publique en disant « ça n'a aucun bon sens, c'est d'une totalité absurde ». C'est totalement, donc, d'une absurdité totale, cette affaire-là. En plus, c'est que le Eylea, donc, il y a certaines personnes, les médecins vont intervenir, ils vont dire, ben là, on va retourner au médecin, parce que ces gens-là, la plupart avaient aussi, donc, un médicament différent auparavant. Ils en avaient à tous les mois. D'accord? Ben là, on va retourner, donc, au médicament précédent. Mais le médicament précédent, il est plus coûteux que le médicament qui se donne aux 6, 7 ou 8 semaines.
Donc, on ne peut pas mettre cette décision-là, finalement, sur l'idée de sauver de l'argent en bout de ligne.
Écoutez, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan médical ou que ce soit sur le plan humain, c'est totalement absurde. Sur le plan financier, d'abord, parce que, effectivement, même si on retourne aux médicaments précédents, ça va coûter plus cher à l'État, hein, à tous les mois au lieu d'aux 6 semaines. Deuxièmement, sur le plan médical, ça veut dire qu'il y a plus d'interventions médicales. Quelqu'un qui en a aux 6 ou 7 semaines, ben, il va tomber à tous les mois, donc il y a quand même, donc probablement plus d'injections dans une année. En plus, depuis quand ce sont des fonctionnaires qui vont décider c'est quoi le meilleur traitement et non pas les médecins?
Qu'est-ce qu'on vous a répondu au ministère de la Santé?
Le ministère de la Santé, comme tel, d'abord, ne m'a jamais répondu. Alors, on a envoyé une lettre détaillant tout ça, toute la question financière, toute la question humaine, comment, dans le fond, on va retourner des patients vers un mois. Écoutez, j'ai beau leur dire que, dans le fond, c'est plus de déplacements, des personnes âgées. En plus, on envoie une lettre sans bon sens. Donc, c'est des gens paniquent, sont en stress total. On parle de personnes âgées. Et là, ce qui va arriver, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne bougeront plus, là. Imaginez quelqu'un qui a 80, qui reçoit ça, bon, ben, j'en ai plus, etc. Déjà, c'est des gens qui sont trois fois plus à risque d'une dépression. Et là, ils reçoivent une lettre comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont, comme on dit, là, tomber dans le crack du système.
Oui, bien, c'est ce qu'on
alors,
voit, justement.
Ils ne réagiront pas. Et ce n'est pas tous les médecins qui vont réagir, en plus. Les médecins sont débordés, les ophtalmologistes, les rétinologues en particulier, les spécialistes de la rétine, sont débordés. Alors, pensez-vous sérieusement que tous vont comme ça, gentiment, appeler la régie, envoyer des lettres en disant, ben là, qu'est-ce qu'on peut faire? On va les retourner à l'ancien, etc., etc. Plusieurs le font. Mais il y a plusieurs personnes, par contre, qui ne réagissent pas. Que ce soit les patients ou certains médecins comme tels, ce qui fait qu'on va encore avoir des gens au Québec qui vont perdre la vision à cause, cette fois-ci, d'une procédure administrative.
Ce sont des faits très, très troublants que vous nous dites. Monsieur Lavoie, en conférence de presse, vous avez évoqué que c'était la deuxième fois qu'on mettait en péril la santé visuelle des personnes âgées. Quel était le problème la première fois?
La première fois, donc, à partir de 2009, même 2008, on a commencé à imposer des frais accessoires aux personnes. Parce que là, voyez-vous, là, on avait un ministre de la Santé, M. Bolduc. Là, soudainement, toutes les personnes qui étaient diagnostiquées avec une forme humide qui nécessitait des injections, donc le nouveau médicament qu'on appelait Lucentis, toutes ces personnes-là, comme telles, se sont fait dire, les hôpitaux, on ne le donne pas. Allez en clinique privée.
Mm-hmm.
Alors, en clinique privée, alors voilà que les médecins, les cliniques, alors facturaient entre 150 et 250 $ pareil, pour l'injection. Finalement, qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est que ce qu'ils facturaient, parce que d'abord, c'est interdit par la loi de facturer autre chose que des soins, ben, ils étaient déjà payés pour des soins. Ils recevaient déjà 175 $ pour une injection qui prend 5 minutes. Alors, ce qu'ils facturaient, ils ont peut-être facturé ça parce que, dans le fond, c'était sur la carte d'assurance maladie. Alors, dans le fond, ce qu'ils facturaient, c'était des gouttes ophtalmiques préparatoires à l'injection. Et une recherche que j'ai faite a démontré que ça valait même pas 15 $. Donc, c'est rendu que les cliniques faisaient un profit formidable avec ces patients. Et ce qui est arrivé, et nous avons reçu des téléphones de personnes qui n'avaient pas cet argent-là, qui n'avaient pas le 150, le 200 ou le 250 $ ou 500 $ pour les deux yeux pour avoir une injection. Alors que dans le fond, l'injection, le médicament était payé par la Régie d'assurance maladie du Québec, hein, le traitement à l'époque. Alors, ce qu'on payait, c'était des gouttes ophtalmiques préparatoires, deux, trois gouttes dans l'œil pour aseptiser l'œil avant l'injection. Alors, ces gens-là, il y a beaucoup de personnes qui, encore une fois, donc, ont tombé en deux chaises et qui ont perdu la vision parce qu'elles n'avaient pas de l'argent nécessaire pour payer ces injections-là comme telles.
Bon, heureusement, vous êtes là pour veiller.
On parle au Québec en 2010, il y a jusqu'en 2011, jusqu'à temps que je me batte contre eux autres, faire un recours collectif. Donc, il y a des gens au Québec qui ont perdu leur vision. D'autres se sont appauvris pour avoir donc un soin essentiel pour préserver leur vision. C'est ça, c'est comme ça que ça a commencé au Québec. Et là, on se rend compte d'une chose. On avait soudainement, donc toutes les cliniques, tous les hôpitaux ont fermé leurs portes, envoyer dans une clinique.
Il va falloir qu'on s'arrête là-dessus, ouais. Malheureusement, Monsieur Lavoie. Heureusement, l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire veille au grain, en fait, pour s'assurer que les aînés aient les meilleurs traitements et les meilleurs soins possibles. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue.
De rien, bonne journée.
Le monde a l'air tout droit sorti de l'Est, même la brume semble peser des tonnes. Vert, jaune et rouge, c'est tout ce qu'il me reste. Mes quatre feux de circulation, comme
c'était Louis-Jean Cormier avec la pièce Saint-Michel tirée de son album Les Grandes Artères. On continue à Ça vaut le détour. Aujourd'hui, on vous présente un organisme qui fait vraiment une grande différence chez les parents, chez les familles et évidemment chez les bébés aussi. On parle de Préma Québec et j'ai avec moi en studio Madame Ginette Manta, fondatrice et directrice de Préma Québec et aussi mère. Bonjour, bienvenue en studio.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Tout d'abord, on va revenir rapidement sur l'historique un peu de Préma Québec. Dans quel contexte est-ce que l'organisme est né?
Alors, je suis une mère de prématurée. J'ai eu deux garçons prématurément. C'est important de dire que je suis une digne Abitibienne. Alors, je me suis retrouvée à avoir deux enfants prématurés qui ne sont pas des jumeaux, donc à 2 ans et demi d'intervalle. Un premier prématuré qui est né à 32 semaines, il y a 25 ans, qui va bien, qui n'a pas de complications. Un deuxième qui est arrivé à 31 semaines avec des complications sévères et pour qui on a dû faire des choix éthiques. Alors, notre beau Vincent est arrivé à 31 semaines et là, le bal va commencer de cette façon-là. Vincent va être réanimé, va faire vraiment des complications sévères et là, on va avoir 5% de chances de survie. On va subir à 26 jours de vie un transfert vers Sainte-Justine. Mm-hmm. Et là, on va se promettre assis dans un petit salon que si jamais on s'en sort, puis on repart avec un bébé vivant. Et en pas pire condition, ben un jour, on fera une association pour les familles parce qu'on avait trouvé ça très, très difficile de se retrouver à 700 km de notre plus vieux, à 700 mm-hmm. km de ma mère, ma sœur, mes frères, mes amis et tout le support qui allait autour. Alors, Prima Québec est né il y a 13 ans. Ça fait à peine 13 ans, il y a quelques jours. Prima Québec est né comme ça parce qu'on s'est remis ensemble, tout le monde, puis on a dit, ça y est. On va faire une association pour les pour aider puis faire connaître la cause surtout.
On parlait de 31 semaines, 35 semaines. À combien de semaines un bébé est-il considéré prématuré?
Un bébé, pour qu'on ait une grossesse à terme, en fait, il faut que le bébé naisse après 37 semaines. Une grossesse normale, on parle de 40 semaines. Et pour être dans les statistiques, c'est 3 semaines et plus avant la date prévue d'accouchement. Donc, présentement, on a des bébés là, qui naissent à peu près à 23-24 semaines, jusqu'à 36 semaines et 6 jours. Ils sont comptabilisés comme des bébés prématurés.
Et justement, est-ce que vous avez certaines statistiques? Combien de bébés naissent prématurés?
Au Québec, on parle d'un petit peu plus que 6 000 naissances chaque année qui vont naître avant 37 semaines. On parle d'un peu plus de 1 200-1 300 bébés qui vont naître avant 32 semaines. Donc, c'est des bébés qui vont être hospitalisés 2 mois et plus à la base, en partant. Et pour connaître, pour se donner une idée du temps d'hospitalisation d'un bébé, si le bébé arrive 2 mois avant sa date prévue d'accouchement, il sera hospitalisé à plus ou moins 2 semaines, 2 mois. S'il naît 4 mois avant sa date prévue d'accouchement, il va rester aussi hospitalisé 4 mois, plus ou moins 2 semaines. Oui. Évidemment, plus on arrive tôt dans la vie, plus on arrive prématurément, plus l'hospitalisation s'étire, s'allonge.
Justement, c'est pour s'assurer, en fait, du développement maximal, si on veut, de l'enfant pour le mener à terme, même si c'est de manière artificielle dans un petit incubateur.
Exactement.
Quels sont les principaux facteurs qui causent les naissances prématurées? Est-ce qu'on en a identifié?
On en a identifié quelques-uns, mais les deux principaux, j'oserais vous dire l'âge maternel tardif, plus tardif des mères, donc les grossesses après 32-35 ans chez les mamans, une première grossesse, et aussi les naissances gémellaires, donc des jumeaux, des triplés. Ça va compter. Évidemment, là, que les enfants qui arrivent à 2, à 3, à 4 ont plus de chances d'arriver prématurément.
Et on parle de ces besoins d'hospitalisation d'emblée pour le bébé. Quelles sont les conséquences, quelles sont les complications possibles? Évidemment, ça doit être différent pour chaque enfant qui vient au monde, mais quelles sont les grandes difficultés qu'on voit?
Et là, il faut faire vraiment une différence entre un 25 semaines et un 35 semaines. Hein? On s'entend, c'est sûr que c'est pas la même chose, même si on va dire que tous les deux sont des enfants prématurés. Il y a des complications. Bien, je pense qu'il faut faire, en faisant le parallèle ou en faisant une petite comparaison avec un accidenté de la route, aussi bête que ça puisse paraître, mais ça va dépendre de la gravité de l'accident, ça va dépendre des complications. On se retrouve dans des soins intensifs, que ce soit des soins intensifs néonataux, des soins intensifs pédiatriques ou des soins intensifs pour adultes, bien, ça va vraiment dépendre de tout ce qu'il va avoir comme complications. Évidemment, hospitalisé, je risque de rencontrer des bibites, de rencontrer des microbes. Je risque aussi, mais il y a quand même une moyenne ou une base, je dirais. Chez les bébés, ils vont avoir des canaux artériels qui ne seront pas tout à fait fermés, qui vont se fermer en cours d'hospitalisation. Il peut toujours avoir des problèmes pulmonaires. On parle aussi, bon, au niveau de la vue, de la vision. Certains de nos prématurés vont souffrir pendant l'hospitalisation de rétinopathies qui peuvent se résorber, qui peuvent se dégrader, évidemment. Donc, à partir du moment où on parle d'audition, on parle de vision, on parle de cœur, de poumon, d'intestin, tu sais, c'est toujours des choses
très délicate à traiter. Oui. On vient de faire le portrait un peu dans lequel le bébé arrive. On a quelques minutes. Les parents, là-dedans, c'est un choc. Ils doivent réagir. Heureusement, Préma Québec est là maintenant pour les soutenir. Quel type de service vous offrez aux parents et aux familles?
Alors, l'association regroupe tous les gens qui ont la cause à cœur. C'est pas une association qui regroupe des parents, c'est une association qui offre des services aux parents. Donc, évidemment, on a une ligne d'écoute disponible partout au Québec. On a de la documentation qu'on offre gratuitement. On a la chance d'avoir du soutien financier du fédéral et du provincial qui nous permet d'offrir des services gratuits à toutes les familles. On soutient les parents parce qu'on veut surtout qu'ils soient au chevet de leur bébé. On veut les encourager, on veut les aider. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vivent des transferts des régions vers les grands centres. Mm-hmm. On traite les enfants, les bébés, les grands prématurés sont traités à Montréal, Québec, Sherbrooke. Et il y a des bébés qui vont aller en soins intermédiaires dans les régions, mais il y en a qui viennent faire un stage dans les grands centres. Et les parents ont besoin de soutien, ont besoin d'orientation, ont besoin qu'on les soutienne aussi financièrement. Il y a nos petits bébés qui vont nous quitter en cours de route. Il y a des petits bébés qui... on perd quand même quelques centaines de bébés chaque année. Et là, ben il faut soutenir ces familles-là à travers tout un service de deuil.
Donc, même le soutien financier est aussi quelque chose que vous pouvez offrir ou du moins référer des ressources?
Absolument. On a des ressources établies. On a aussi de la documentation qui va orienter les gens. Dans certaines situations, on va aider la maman à... Par exemple, payer la location de son tire-lait, on va payer du stationnement, un peu d'essence. On veut dire aux parents que ça vaut la peine d'être au chevet de son bébé le plus souvent possible, le plus longtemps possible pour permettre au bébé d'être pris, d'être en kangourou, que la maman se réapproprie aussi la naissance précipitée de son bébé. On veut absolument que les parents soient au chevet et on va tout faire pour les aider. Ils n'ont qu'à communiquer avec nous.
En terminant, justement, il nous reste quelques secondes. Comment est-ce qu'on peut soutenir votre organisme afin que vous puissiez soutenir les parents?
Faire un don, organiser des levées de fonds, nous encourager dans nos levées de fonds, parce que tous ces sous-là, on les redonne en aide financière aux parents. Alors, allez sur notre page Facebook, allez sur notre site web, allez cliquer sur « dons ». Il n'y a pas de petits dons. Tous les dons servent à encourager les parents à être au chevet de leur bébé. Et les prématurés deviennent grands aussi, deviennent en forme aussi. Et ça vaut la peine d'appuyer la cause.
On va sur prémaquébec.ca. Merci beaucoup, Madame Ginette Manta, fondatrice et directrice de Préma Québec. Merci d'être présente dans la vie des familles des prématurés.
Merci. Merci pour l'invitation. Plaisir.
Sur les ondes du canal M, vous écoutez « Ça vaut le détour » avec Maxime D. Pomerleau.
Midi 30, vous êtes toujours à « Ça vaut le détour ». Je vous invite à nous suivre sur Twitter avec le mot-clic « CVLD ». La Fédération québécoise de l'autisme est un regroupement provincial de plus de 90 organismes qui ont en commun les intérêts de la personne autiste, ceux de sa famille et de ses proches. J'ai au bout du fil la directrice de la Fédération, Mme Joanne Lauzon. Bonjour.
Bonjour.
Pour votre chronique aujourd'hui, Mme Lauzon, vous nous proposez un retour, en fait, sur le premier Forum québécois de l'autisme qui se tenait les 11 et 12 février derniers.
Oui, effectivement.
Donc, en quoi consistait exactement ce premier forum? Qui étaient les participants qui étaient conviés?
OK. Alors, le premier forum, bien, ça a été l'occasion de faire le point sur les différents éléments qu'on voulait prioriser là, pour poursuivre le développement de l'offre de services qui est destinée aux personnes autistes et à leurs familles. Ça fait un bout de temps là, que ça ne bouge plus beaucoup au niveau du développement comme tel. Là. Je vous dirais que les dernières années, depuis 2009 à peu près, ce qu'on a eu, c'est des évaluations, des enquêtes, des bilans qui ont été réalisés par soit le ministère de la Santé, le protecteur du citoyen, le vérificateur général du Québec, souvent suite à des plaintes de parents, de services qui ne recevaient pas. Et ce qu'on a constaté dans tous ces rapports-là, c'est que les insatisfactions des personnes autistes puis des familles, elles étaient fondées. Mm-hmm. Et dans ces rapports-là, il y avait des recommandations. Et jusqu'à date, ça n'avait pas encore abouti vraiment. Et pour le forum, ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait 8 thèmes. Et dans chacun des thèmes, on avait regroupé des recommandations de ces bilans-là, de ces rapports-là. Pour chacun des thèmes, il pouvait y avoir entre 3 et 4 priorités. Ces thèmes-là étaient présentés dans des ateliers où il y avait une 30aine de personnes, je vous dirais, et on discutait des priorités pour le thème et ensemble, on essayait de faire consensus sur une priorité.
Par exemple, pouvez-vous nous donner justement un exemple de priorité qui a été convenue?
Il y en avait 8. Il y avait l'évaluation des besoins et le diagnostic, donc hein, dès le départ. Là, on avait la petite enfance. Ça touchait en fait toutes les strates, là, résidentiel, milieu de vie, diversité des profils, enfance, adolescence, adulte et projet de vie, famille, recherche et formation. Donc, vous voyez, ça faisait vraiment un topo là, de toutes les étapes de vie là, d'une personne autiste. Là.
Donc, et c'était dans le but de pouvoir mieux identifier les enjeux actuels pour un éventuel plan d'action?
En fait, c'était pas nécessairement mieux identifié dans le sens que, moi, je me souviens d'avoir répété souvent, il y avait 3 ou 4 priorités. Une priorité, ça le dit, c'est prioritaire. L'objectif, c'était un peu de savoir par quelle priorité on commence, parce que c'est pas parce qu'on en choisit une que les autres deviennent moins prioritaires. Là. Mm-hmm. Donc, c'était un peu pour savoir, pour chacun des thèmes, de où on parle. Là, c'est comme ça s'est fait. Et je vous disais, il y avait des ateliers d'une 30aine de personnes. Après ça, on retournait en grand groupe, puis il y a eu autour de 150 personnes qui ont participé au forum. Là. Puis en grand groupe, on faisait un résumé de ce qu'on venait de faire en atelier. Et là, c'est tout le monde, à l'aide d'un télévoteur, qui votait sur les priorités qui étaient présentées. Mm-hmm. Et ces priorités-là vont servir au futur plan d'action qu'on nous a promis avant la fin de l'année.
Oui, justement. Donc, le forum s'est conclu tout de même sur un plan d'action.
Sur la promesse d'un plan d'action.
Sur la promesse d'un plan d'action. Quand tout de même, cette nuance que vous apportez est importante. Est-ce que ça a contribué à votre post-forum blues dans un communiqué émis le 15 février dernier? Oui. Vous mentionnez cet état, le post-forum blues. Pourquoi?
En fait, c'est que ça s'est relativement bien passé pendant le forum. Hein. Il y avait, comme je vous disais, 150 participants, puis il y avait des représentants de un peu tous les milieux, là. Puis des différents ministères aussi, parce que c'est souvent, on pense que parce que ce sont des personnes autistes, ça concerne juste le ministère de la Santé et des Services sociaux. Pourtant, ça concerne aussi les autres ministères. Donc, il y avait des représentants, il y avait des familles aussi, il y avait des personnes autistes, il y avait des représentants des familles. Fait que c'était quand même des groupes intéressants. Il y a eu des beaux échanges qui sont faits. On était plein d'espoir, là. Sauf que le vendredi après-midi, vers 2 heures, il y a eu un point de presse. Et Mme Charlebois a annoncé qu'il y aurait un plan d'action avant la fin de l'année, mais qu'il n'y aurait pas d'investissement qui allait suivre. Donc, si on se replace dans le contexte où on est, tu sais, beaucoup de participants à se pencher sur la même problématique puis à essayer de trouver des solutions, puis on se fait dire, ben oui, un plan d'action, mais il n'y a pas de sous pour aller avec. Sauf que ça, c'était à 2 heures d'après-midi pour le point de presse, puis pendant le discours de clôture, vers 5 heures l'après-midi, Mme Charlebois s'est engagée à tout faire pour trouver les fonds nécessaires pour réaliser ce plan d'action-là. Sauf que le coup avait été donné à 2 heures là, pendant le point de presse. Là, les gens, ça a dégonflé nos ballons un petit peu.
Oui. Alors que justement, dans la réalité, on a une augmentation de 20% par année du nombre de diagnostics de TSA, alors que les budgets augmentent de 0,7%.
Exactement. Je vous dirais que la dernière fois qu'il y a des sous qui sont descendus là en autisme, si ma mémoire est bonne, là, c'était à peu près en 2013. Il y avait eu à ce moment-là toute la question des services de jour pour les adultes. Il y a 10 millions qui est descendu pour la déficience intellectuelle, la déficience physique puis les troubles du spectre de l'autisme. Puis ça, c'était pour 5 régions au Québec seulement, là. Donc, depuis ce temps-là, il n'y a pas vraiment d'argent neuf qui est arrivé et le taux de prévalence continue d'augmenter. Et déjà, l'offre de service ne répondait pas à la demande. Ça fait juste depuis 2013 hein, qu'on a un plan d'action en autisme, puis on a priorisé à ce moment-là les enfants 2-5 ans. Parce qu'on savait pas trop. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de financement, donc on a dû prioriser. Donc, nos ados puis nos adultes qui attendent encore, là. Et ça n'a toujours pas débloqué, sauf ce 10 millions-là, mais pour les trois clientèles, puis pour cinq régions. Là. Fait qu'on s'entend qu'il y a encore beaucoup de monde qui attend. Puis le taux de prévalence, bien, il continue d'augmenter.
Justement, on parle d'abord de ce groupe d'âge des enfants de 0 à 5 ans qui avait été ciblé au départ parce que, bon, il fallait bien en cibler un pour commencer. On parle beaucoup de coupures reliées à l'austérité. Quelles sont les conséquences pour les enfants avec un trouble du spectre de l'autisme qui sont en CPE?
En CPA, je vous dirais que j'ai pas beaucoup de commentaires à l'heure actuelle. C'est pas ce que j'entends. Ce que j'entends beaucoup, moi, c'est dans le réseau scolaire.
Bon, c'est l'étape après le CPA,
oui,
d'arriver dans le réseau scolaire. Qu'est-ce qui se passe?
En fait, on voit des suspensions à répétition. Hein. Nous, on appelle ça des expulsions parce qu'il n'y a pas de date de retour, mais officiellement, c'est des suspensions. On offre quelques heures de scolarisation par semaine aux familles, mais ça passe une heure par jour, ça fait cinq heures par semaine, ça donne pas grand-chose. Les temps d'accompagnement dans les classes sont réduits. Les intégrations dans les classes régulières, ça se fait souvent sans soutien à l'élève ou à l'enseignant. On a assisté à des fermetures de classes spéciales. Comme vous voyez, là, le portrait n'est pas très rigolo. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de difficultés. On en entend beaucoup parler de nos familles. Là. Des situations difficiles dans les milieux scolaires.
Mm-hmm. Et qui ont des répercussions sur tous les autres aspects, finalement, de la vie, à la fois de l'enfant, mais aussi de la famille qui est impliquée.
Ben oui, de la famille aussi, hein, parce que quand votre enfant est retourné à la maison, si vous avez un travail, vous avez un problème, là.
Absolument. Et quel est le danger à négliger ces services qui ont lieu durant une période cruciale du développement des enfants?
En fait, moi, je vous dirais que le danger de négliger des services, c'est pas juste pendant la période de développement, là, c'est à tout moment. Là. C'est sûr que pendant la période de développement, on l'aide à aller plus loin. Mais par exemple, si vous prenez un adulte qui est en situation de crise, puis vous intervenez pas, ben la situation va se dégrader, là, ça va devenir plus grave.
Mm-hmm.
Même chose avec un jeune qui a des troubles de comportement, par exemple. Là, si on règle pas la situation, ben ça va juste se dégrader. Là. Fait que je pense qu'à tous les groupes d'âge, c'est important d'intervenir. Puis souvent, ça prendrait juste un petit coup de pouce. Mais parce qu'on attend, ben ça devient des interventions très longues et très complexes. Là.
Oui, on sait bien que travailler en amont est toujours plus efficace que sur le moment. Donc, bref, de ce premier forum québécois de l'autisme, il y a eu des consensus du milieu. Les politiciens annoncent des priorités, mais finalement, tout cela demeure théorique.
Écoutez, on se croise les doigts jusqu'à maintenant parce que on va un petit peu plus loin que le théorique dans la mesure où il y a vraiment une promesse de plan d'action. Donc, ça va être un papier aussi, là, s'il n'y a pas de financement qui vient avec. Puis on va essayer de... Mme Charlebois nous dit régulièrement que c'est une cause qui lui tient à cœur. On va essayer de faire confiance puis d'espérer que ça va arriver. Sauf que nous, on voulait participer à condition qu'il y ait des solutions concrètes qui se réalisent dans des temps raisonnables.
Mm-hmm.
Dans un an, pour nous, c'est long. On les a toutes les priorités. Là. Puis, tu sais, ça, on a eu moins de temps pour organiser le forum que pour faire le plan d'action. Et au bout de la ligne, s'il n'y a pas de financement, bien, ça va, ils vont avoir juste gagné du temps. Là. Fait qu'il va falloir penser à réagir, faire quelque chose, parce que nos familles là, sont vraiment... plus capable d'attendre. Là.
Exactement. Bien, c'est des risques, encore une fois, d'augmenter la vulnérabilité de plusieurs personnes.
Exactement.
Madame Lauzon, en terminant, quel est, si je vous donne justement en une minute, quel est votre message à envoyer au ministère de la Santé, aux différentes instances décisionnelles?
En fait, c'est un peu ce qu'on a fait dans notre communiqué. Hein. On lançait un appel à la ministre Charlebois afin qu'elle tienne compte du momentum qu'on a présentement. Puis les divers réseaux étaient tous présents au forum. Il faudrait battre le fer pendant qu'il est chaud. Là. Tout le monde était là, tout le monde a entendu les mêmes affaires. Un an, c'est long. Là. À la fin de l'année, on arrive aux fêtes. C'est pas le temps de sortir un plan d'action. Il faudrait mettre de la pression que ça sorte plus vite puis que t'sais, qu'on garde ce momentum-là qui était quand même intéressant. Comme je vous dis, jusqu'à l'annonce, là, il s'est passé des belles choses au forum. Là.
Oui, on a aucun doute qui va continuer de se passer des belles choses aussi du côté de la Fédération québécoise de l'autisme. Vous allez surveiller ça pour nous, ce plan d'action. Donc, on va attendre de son dépôt et on va voir par la suite qu'est-ce qui va se passer. Madame Joanne Lauzon, vous êtes directrice de la Fédération québécoise de l'autisme. Merci de nous avoir partagé ça aujourd'hui.
Merci à vous. Au revoir.
Dans la chronique que nous venons d'entendre avec Mme Lauzon de la Fédération québécoise de l'autisme, on traite souvent à cette émission de coupures et de délais dans la santé et les services sociaux. C'est pourquoi nous avons choisi de vous présenter à nouveau une entrevue que nous avions faite en septembre dernier avec Mme Raymonde Saint-Germain, protectrice du citoyen, afin de se rappeler à tous le rôle et le fonctionnement de ce recours pour les usagers qui se sentent lésés. Notre prochaine invitée, elle représente l'organisme Le Protecteur du Citoyen, qui est un organisme québécois qui agit comme ombudsman, qui a pour mission de protéger les droits des citoyens lorsqu'ils utilisent les services publics québécois. C'est une institution neutre, impartiale et indépendante du gouvernement. Le nom désigne à la fois l'institution et la personne qu'il dirige. Le Protecteur du Citoyen a été créé... est entré en vigueur, en fait, le 14 novembre 68, en même temps que la loi sur le protecteur du citoyen. Donc, nous avons au bout du fil la protectrice du citoyen, Mme Raymonde Saint-Germain. Bonjour.
Bonjour, Mme Despomerleau.
Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Protectrice du citoyen, en quoi consiste exactement votre mandat?
Alors, le nom le dit bien, effectivement, protéger les citoyens lorsque le protecteur considère que leurs droits ont été lésés par un ou l'autre des services publics du Québec et s'assurer qu'il y aura un correctif adéquat pour que le citoyen soit traité avec justice, avec équité.
Puis, donc, quand on parle de services publics, ça peut faire référence soit à l'administration gouvernementale, des organismes publics, le réseau de la santé, des services sociaux aussi qui a été ajouté dans les dernières années.
Oui, tout à fait. Et ça peut être aussi des résidences privées pour personnes âgées qui sont ce qu'on appelle des résidences conventionnées, donc qui sont reconnues par le gouvernement.
Et puis... Est-ce qu'on est en mesure de dresser un portrait de la clientèle ou des gens qui font affaire au service du protecteur du citoyen?
Je vous dirais, dans le profil de notre clientèle, il y a toutes les catégories, tous les types de citoyens, depuis des personnes, des étudiants, par exemple, qui ont recours à l'aide financière aux études et qui considèrent que leur dossier n'a pas été évalué correctement, des aidants naturels pour des personnes plus vulnérables, qui sont en CHSLD, par exemple, ou qui sont hospitalisées, des entreprises, des petites entreprises qui ont des difficultés avec Revenu Québec, des accidentés de la route, des accidentés du travail, donc avec la CSST, avec Société de l'assurance automobile. J'ai envie de vous dire, si vous avez affaire avec un ministère, un organisme, un établissement de santé et de services sociaux du Québec, en cas de doute, appelez-nous et on va ou bien pouvoir traiter votre dossier, ou sinon, on va trouver pour vous une ressource externe qui va pouvoir vous aider.
Donc, le protecteur du citoyen peut agir aussi comme référence, en fait.
Comme référence, notre politique, c'est que on ne laisse jamais tomber un citoyen. Donc, parfois, la difficulté qu'il vit va relever, par exemple, d'un ordre professionnel. Alors, on va s'assurer de le référer au bon endroit, à la bonne personne, au bon numéro de téléphone.
Puis, vous avez nommé quelques exemples qui sont très variés, justement, que passant, en fait, des personnes âgées qui sont en résidence, même privée, à l'étudiant qui fait une demande d'aide financière pour ses études. Est-ce qu'il y a, en fait, un parcours type avant d'arriver au protecteur du citoyen? Est-ce qu'il y a d'autres instances qu'on doit peut-être aborder d'abord ou on commence directement avec vous en haut de la chaîne?
Bon, alors il y a deux volets à la réponse à cette question. Si ça concerne la difficulté du citoyen, un ministère ou un organisme public, directement, on vient au protecteur du citoyen. Incidemment, nos services sont sans frais, sont accessibles. On a une ligne 1-800, on a un formulaire de plainte sur notre site et on peut aussi formuler sa plainte par téléphone. Par contre, si la plainte concerne le réseau de la santé des services sociaux, que ce soit un centre jeunesse, un hôpital, un CHSLD, normalement, on porte plainte auprès du commissaire aux plaintes de cet établissement. Je dis normalement parce que il peut arriver une situation d'urgence où la personne, on considère qu'elle est en danger, qu'il y a nécessité d'agir rapidement. Alors, soit la personne elle-même ou soit quelqu'un qui se préoccupe de sa protection peut faire ce qu'on appelle un signalement au protecteur du citoyen. Et dans ces cas-là, nous allons agir directement.
C'est ça, donc on...
En premier niveau.
Oui, c'est ça. Le premier niveau, ça, c'est si on pense à vraiment la sécurité, l'intégrité de la personne qui pourrait être menacée.
C'est ça, danger imminent. À ce moment-là, le protecteur va être là immédiatement.
Puis, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, justement, de ce type de cas d'urgence? Est-ce que c'est fréquent?
C'est quand même assez fréquent. On reçoit dans l'année environ 150 signalements. Et nous retenons la plupart d'entre eux. Ce sera des situations toujours pour des personnes qui sont vraiment vulnérables, par exemple des résidences privées pour personnes âgées où on considère que les gens ne sont pas nourris adéquatement, que l'hygiène est déficiente. Ça peut être aussi dans un centre jeunesse, une situation d'isolement d'un jeune qu'on considère incorrect pour sa santé, non conforme au respect de ses droits. Alors, ce sont des situations comme celle-là et très généralement, ce sont des personnes vulnérables qui ne peuvent pas elles-mêmes porter plainte ou s'assurer que leurs droits sont bien respectés.
Madame Saint-Germain, vous avez été désignée protectrice du citoyen à l'unanimité par les députés de l'Assemblée nationale du Québec en juin 2011 pour un deuxième mandat consécutif de 5 ans. Je voulais savoir comment est-ce que ça se passe, ce processus-là, en fait? Comment on nomme le protecteur ou la protectrice du citoyen?
Alors, c'est effectivement une nomination de l'Assemblée nationale qui, sur la recommandation du premier ministre, examine le dossier de la personne recommandée. Et toutes les formations politiques sont consultées. la personne doit recevoir l'assentiment, donc le vote, d'au moins les deux tiers des membres de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est pour s'assurer que c'est une personne qui, à la fois, sera reconnue, jugée crédible par l'ensemble des partis. Et ça la rend, d'une certaine manière, ça confirme l'impartialité de cette personne-là. Alors ensuite, donc, il y a un vote par tous les membres de l'Assemblée nationale et le protecteur est désigné. Vous l'avez dit, j'ai été désigné à l'unanimité. Donc, l'ensemble des parlementaires avaient voté pour moi, mais c'est le cas aussi de mes 5 prédécesseurs. Je suis la 6e protectrice du citoyen du Québec et mes 5 prédécesseurs avaient aussi reçu un vote unanime, ce qui démontre bien que l'importance pour les parlementaires d'avoir une personne qui est au-dessus de la mêlée et qui, parce que dans ce travail-là, on est quand même appelé à faire des recommandations aux parlementaires, des recommandations au gouvernement, des commentaires publics. Alors, il faut que les parlementaires aient l'assurance que cette personne-là n'agit pas de manière partiale et que son seul intérêt, c'est le meilleur intérêt public et qu'elle considère aussi le point de vue et le bon fonctionnement des ministères et organismes, parce que dans certains cas, dans plusieurs cas même, le point de vue des ministères est un point de vue qui est justifié.
Tout à fait. Puis, et dont on doit prendre toujours en considération les deux parties.
Absolument. C'est l'équité, la justice, il faut entendre toutes les parties avant de tirer ses conclusions.
Oui. Avant de devenir protectrice du citoyen, Mme Saint-Germain, que faisiez-vous?
Alors, j'ai été au service public, donc au gouvernement du Québec, pendant un bon nombre d'années, dont une dizaine comme sous-ministre. J'ai été sous-ministre des services gouvernementaux, de l'immigration, des relations avec les citoyens. Donc, je le dis avec modestie parce que je pourrais avoir l'air de quelqu'un qui veut se mettre en évidence, mais votre question m'amène à dire que, surtout, ce que cela m'a donné, c'est une bonne connaissance du fonctionnement des services publics et une capacité de voir ce qu'on peut et ce qu'on doit faire dans toutes les situations qui sont soumises à mon attention. Alors, ça me permet aussi de contribuer à formuler des recommandations. C'est pas tout de trouver le problème, mais il faut trouver une solution. Et c'est pas toujours simple de trouver une solution. Alors, l'intérêt d'une longue expérience au sein de l'administration publique, c'est que ça permet d'être partie de la solution et ça donne aussi aux administrateurs publics, évidemment, une crédibilité là qui est essentielle dans cette fonction-là.
Tout à fait. Et justement, sur quelle base prenez-vous vos décisions?
Sur plusieurs bases. Hein. D'une part, il y a très généralement une loi, un ou des règlements qu'il faut respecter. Toute la notion des bonnes pratiques, la notion des engagements du gouvernement dans ses programmes, dans ses critères de service, la notion aussi qu'on appelle de l'équité. C'est-à-dire parfois la lettre ou le critère d'un programme, c'est très strict. Mais quand on regarde la situation du citoyen, on dit si l'interprétation est plus large, la situation de ce citoyen, elle correspond bien à ce qu'on voulait couvrir quand on a voté la loi, quand on a adopté le règlement ou quand on a préparé ce programme-là. Et très souvent, on va plaider la cause des citoyens sur le sens de la justice, sur le sens de l'équité. Cette personne-là, c'est clair que dans l'esprit du législateur ou dans l'intention d'un décideur, d'un ministre, on voulait la couvrir, cette personne-là. Alors, c'est comme ça qu'on regarde. Alors, il y a donc une foule de pratiques, une foule de règlements qui doivent être suivis. On a une méthode d'enquête aussi qui est très, très rigoureuse là, pour établir la réalité des faits. C'est quand même très important parce qu'un des objectifs du protecteur, c'est de prévenir le recours aux tribunaux. Vous savez, le recours, bien sûr, les tribunaux sont essentiels dans un état de droit, dans notre société, mais il ne faut pas que ce soit le premier recours. Il faut que ce soit un dernier recours. Il faut trouver des modes alternatifs pour régler les différends, plus rapides, moins coûteux. Et le protecteur du citoyen est un de ces modes-là.
Merci pour toutes ces informations. En terminant, si on choisit de faire une démarche auprès du protecteur du citoyen, combien de temps est-ce que ça prend environ pour examiner un dossier?
Bon, 75 % de nos dossiers vont être traités à l'intérieur d'un délai de 10 jours. Pour le 25 % qui reste, La réponse est très variable.
Ça va dépendre des
ça dépend de la complexité, de la nature du dossier. Écoutez, il y a des dossiers, ça nous prend jusqu'à 6 mois parce qu'il y a plusieurs enjeux et dans ces cas-là, nous informons le citoyen régulièrement de l'évolution de son dossier et surtout, et ça c'est vraiment important.
On va terminer là-dessus.
Un dossier n'est pas fermé tant qu'on n'a pas obtenu la mise en œuvre de nos recommandations.
Merci beaucoup, Madame Raymonde Saint-Germain, protectrice du citoyen. Merci d'avoir été avec nous.
Au revoir.
C'est ce qui met fin à notre programme d'aujourd'hui. Je remercie mes invités en entrevue, Mme Joanne Lauzon, directrice de la Fédération québécoise de l'autisme, Mme Ginette Manta, fondatrice et directrice de Préma Québec. Et on avait commencé l'émission avec M. André Lavoie, directeur général de l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire. Plusieurs dossiers à regarder de ce côté-là. Demain, on s'entretient entre autres avec Christine Rousseau, avocate sur l'obligation d'accommodement versus la discrimination à l'embauche. Est-ce qu'on doit ou non déclarer son handicap en entrevue? On en avait déjà discuté dans notre émission du 17 février dernier. On va avoir plus d'éléments demain avec Mme Rousseau. Je remercie mon équipe technique à la recherche et aux médias sociaux, Christiane Campagna, mise en onde Jean-Sébastien Laliberté. C'était Maxime Despomerleau pour Ça vaut le détour. À bientôt.